Sophia et Jean-Michel, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation sur Divergence FM. Bienvenue dans cette interview société. Alors, vous êtes membre de l'association qui s'appelle les Coachs Solidaires, voilà. Et on va parler tous les trois de santé mentale. Expliquez-nous un petit peu en quoi consiste, enfin, à quoi elle sert cette association qui s'appelle les Coachs Solidaires.
Ben bonjour et merci de nous accueillir. Les Coachs Solidaires, c'est une association qui permet effectivement un accompagnement à des personnes qui ont peu de moyens financiers, de pouvoir avoir un accompagnement type psychothérapeutique, mais également de coaching professionnel, sur un nombre de séances de 10 contractuelles, mais renouvelables. Voilà.
Alors, j'imagine qu'on ne rentre pas ou on ne fonde pas cette association par hasard. En fait, de quel constat, de quel besoin les gens qui ont fondé l'association sont partis?
Le constat, c'était qu'effectivement, il y avait une discrimination, je dirais, de l'accès aux soins, d'une manière générale, des soins psychothérapeutiques ou type coaching qui sont extrêmement chers pour une bonne partie de la population. Et comment essayer de réduire cette injustice, parce qu'il y a beaucoup de besoins et peu de moyens et donc peu d'accès. Donc il y a des gens qui ont vraiment envie de s'en sortir, qui ont vraiment envie d'avancer et qui en face trouvent des tarifs beaucoup trop chers. Donc le constat, il a été fait déjà longtemps. Il y a, je sais pas, 4, 5 ans, 6 ans peut-être avant la création de l'association, il y avait déjà cette volonté de créer quelque chose sous une forme X, Y. Il n'y avait pas d'idée à ce moment-là. Ça s'est fini avec le temps. Voilà.
Alors, vous êtes combien dans l'association et on va dire dans quel genre d'endroit est-ce que vous pratiquez jusqu'à présent?
Alors, actuellement, nous sommes 6, mais en fait, ça tourne. Enfin, il y a du nouveau, il y a qui viennent, il y a qui repartent. Enfin, ça dépend, c'est très modulable. On travaille sur Montpellier, donc dans nos cabinets respectifs, et sur Paris et sur Annecy, et ça a amené à se développer en fonction des personnes qui veulent nous rejoindre, en fait, et qui sont tous bénévoles.
Sophia, toi, tu as rejoint l'aventure il y a peu de temps, moins de temps, je pense. Qu'est-ce que tu peux nous témoigner, en fait, de ton expérience depuis que tu as rejoint les Coachs Solidaires?
Je crois déjà que c'est une initiation qui était très bénéfique, et on voit qu'il y a beaucoup de besoins, beaucoup de demandes. Et on a plein de gens qui demandent cet accompagnement. Et j'aime bien la partie que les patientes peuvent choisir un peu le mode d'accompagnement. Genre, est-ce qu'ils préfèrent que ce soit psychothérapeutique ou coaching ou juste accompagnement ou autre chose. Et c'est modulable. On est assez flexible avec les patientes et on fait beaucoup de séances en ligne aussi pour que ce soit encore plus accessible.
Alors, je vois que sur votre tract, je vois que vous pratiquez, enfin, vous avez des praticiens qui pratiquent la PNL. Donc, là, on rappelle que c'est la programmation neurolinguistique, la sophrologie aussi, l'hypnothérapie, la gestion émotionnelle. Est-ce que ce sont les publics, les patients qui vous demandent tel ou tel accompagnement, ou est-ce que c'est vous qui savez rediriger vers un collègue ou un autre?
Alors en fait, ça se fait un peu naturellement, comme dans toute séance de psychothérapie, hein. C'est, ou même de coaching d'ailleurs, ce sont des outils. Donc c'est du conversationnel à la base, et en fonction de la trousse à outils de chacun, j'ai envie de dire, on va chercher l'outil qui va bien pour faire avancer, pour débloquer tel point, dépasser telle problématique, ou aller vers un objectif encore mieux. Donc chacun ses outils, effectivement, comme le disait Sophia, l'intérêt, c'est comme on est à plusieurs dans cette association avec des techniques différentes, il est possible effectivement de mixer, c'est-à-dire que d'avoir un accompagnement avec un référent ou une référente, et de derrière dire j'ai besoin d'effectivement cet outil que toi tu maîtrises pour cette personne, de venir en complément et en parallèle du suivi qu'on peut faire, qui continue son cours.
Alors, en préparant l'émission, vous me précisiez aussi, et c'est important de le dire, que vous allez peut-être ouvrir des créneaux pour des ateliers de groupe. Donc ça, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus?
Oui, alors ça, c'est tout nouveau, parce que c'est sous l'impulsion d'une personne qui nous a rejoint effectivement récemment, dont le projet est effectivement faire de la sophrologie en groupe. On a fait la toute première séance, pas plus tard que la semaine dernière, et on a décidé de prendre une première date le 12 février. On n'a pas encore exactement l'endroit où ça va se passer, mais ça sera en début de soirée, genre 18h, 18h15, 18h30. Et donc on publiera effectivement une information par rapport à ça. Ce sont des groupes qui sont maximum 10 personnes. avec un tarif effectivement aussi très compétitif, parce que là, on est, je crois, à 3 ou 4 euros minimum, et après, c'est du don libre, quoi. Donc voilà.
Alors, pour être un peu plus fin, en fait, on sait que les chiffres en France et partout ailleurs, d'ailleurs, sont assez préoccupants. Mais vous diriez que vous faites face à quoi, en fait, aux conséquences du Covid, par exemple, avec l'enfermement qui aurait été vécu assez mal par certaines tranches de la population. Est-ce que c'est beaucoup le monde du travail qui abîme les gens? À quoi vous faites face?
Alors là, c'est assez large. C'est difficile de répondre précisément à la question, mais c'est sûr que le Covid a été un événement déclencheur. Mais c'est souvent, on a souvent face à nous des gens qui ont un passé compliqué, un historique d'enfance qui ne les a pas aidés. Et bah, effectivement, le Covid et les accidents de vie ne font qu'apporter effectivement plus de souffrance. Et au bout d'un moment, ça devient difficile de s'en sortir seul, en fait. Donc il y a plein de facteurs déclenchants. Effectivement, le monde du travail en est un aussi. Mais il y a en effet beaucoup de possibilités de pas parler de pathologie proprement parler, mais de souffrance en tout cas issue du passé et des événements récents en effet, ouais, de société.
Alors aujourd'hui, est-ce que vous diriez que vous avez besoin d'être encore plus visible pour les publics que vous touchez? Est-ce que vous avez particulièrement besoin que des thérapeutes vous rejoignent, en fait?
Alors, bien sûr, enfin, que des thérapeutes nous rejoignent, oui, ça sera nécessaire. Plus on sera visible, plus il nous faudra de monde. Hein. Mmh. Pour l'instant, on est resté sur... On a créé en 2021 l'association, ça fait presque 5 ans. Hein. Et au fur et à mesure du temps, ben, ça monte. On arrive encore à 6, on gère. Hein, mais encore une fois, on est dans le monde du bénévolat, c'est-à-dire que les activités quand même de chacun sont telles qu'on ne peut pas non plus prendre énormément de temps. Ce qui veut dire qu'on a besoin, bien sûr, si on est plus visible, il faudra plus de monde. Et on a besoin notamment aussi de s'appuyer sur des structures ou bien des experts, notamment des psychiatres, ça peut arriver, parce qu'on a une vraie problématique, c'est que lorsque une personne ne va pas très bien, qu'il faut quand même on lui propose de l'orienter, et si elle le fait seule, eh ben, elle va attendre 6 mois pour avoir un rendez-vous. Et c'est trop tard. Donc on essaie d'avoir avec nous, d'embarquer avec nous dans l'aventure, au moins un psychiatre. Donc on a des démarches en cours pour avoir quelqu'un qui nous aide, en tout cas, pour avoir au moins des créneaux facilement. Voilà.
Alors, si jamais des thérapeutes ou des professionnels nous écoutent, qu'ils puissent bien comprendre, en fait, quelles sont les conditions. Est-ce que, par exemple, quand on rentre dans l'association, on dit, bah, moi, je peux être disponible de tel jour sur tel créneau d'heure, ou est-ce que c'est les besoins de l'association qui font foi? Ça s'est passé comment pour toi, Sophia?
Pour moi, c'était assez simple. En tout cas, enfin, j'ai pris contact avec mes patientes où on a convenu des créneaux, mais il n'y avait pas des créneaux prescrits à l'avance. En fait, c'était très libre. C'est comme des patients normaux, sauf que je suis pas payée du tout. Mais c'est à base de bénévolat. Mais enfin, ça nous convient comme ça. Et j'espère que pour la clientèle, patientèle, ça c'est pareil.
Donc ça veut dire concrètement que, en fait, les patients contactent en premier lieu l'association. Donc ils n'ont pas derrière tel ou tel thérapeute, ils ont l'association. Et après, ça veut dire qu'à l'intérieur de l'association, il y a quelqu'un qui redirige, redispatche. Ça se passe comment?
Bah, ça se passe un peu comme ça. En effet, une personne qui veut se faire accompagner va déposer un formulaire sur le site. Il y a deux questions, en fait. C'est quelle est la problématique qui vous amène et pourquoi aujourd'hui, pas hier, pas demain. Donc voilà, avec ces éléments-là, on leur envoie derrière un formulaire pour détailler un peu plus de choses, et ils sont rappelés dans les 2-3 jours qui suivent, ou 4 jours maximum, pour avoir un premier avis d'orientation possible. D'abord, savoir si on est compétent, savoir s'il y a une souffrance aiguë ou pas, enfin voilà. Et si tout est OK, ben, on va effectivement proposer à l'ensemble de l'équipe le profil de la personne à accompagner. Et il y a des thérapeutes, des praticiens, des coachs vont se positionner et dire bon, « moi je suis OK, je peux le faire ». Et puis voilà, ça part comme ça, okay. Tout simplement.
Ok. Et tout ça se fait par mail, parce que c'est une question, parce que c'est vrai que nous sommes beaucoup sollicités, chacun chacune, dans nos vies, dans nos métiers, etc. Donc ça veut dire que la personne dans l'association Les Coachs Solidaires, quand elle demande aux autres collègues bénévoles qui seraient dispo pour tel patient, qui aurait tel profil, cette étape-là se fait par mail, et les gens vous répondent par mail?
Alors, en effet, ça passe, l'info passe par mail. Bah, d'ailleurs, aujourd'hui, il y a quelqu'un qui a fait une demande, le mail a circulé. On a aussi un groupe WhatsApp dans lequel qui permet d'être un peu plus encore réactif et d'apporter le fait qu'il y a quelque chose qui bouge, allons voir. Mais effectivement, on parle par mail et par WhatsApp, et puis on parle entre nous aussi régulièrement par des co-visions pour débattre de l'association et puis des nouveautés et puis des process et puis de certains cas si besoin, ouais. Okay. Comme des supervisions, quoi.
Alors justement, la question de la supervision est hyper importante, on le sait. Est-ce que le fait d'être à l'intérieur de cette association vous permet de faire de l'intervision entre vous, ou est-ce que vous avez d'autres outils ?
Oui, en fait, on a prévu de faire de l'intervision régulièrement, nous, genre toutes les deux semaines. Et en tant que thérapeute, on a cette obligation aussi d'être suivi ou supervisé ou intervisé par les collègues.
Est-ce que du coup, cette intervision, elle est aussi solidaire ? C'est-à-dire que, est-ce que des praticiens qui débuteraient leur carrière et qui n'auraient donc pas encore des revenus très solides peuvent faire appel à votre association pour intégrer les groupes de supervision avec des gens qui, par contre, eux, ne seraient pas suivis ?
Alors, on n'a pas d'extérieur ou d'externe qui participe aux supervisions. Il y a un nécessaire devoir de confidentialité. Bon, il y a une charte bénévole qui est signée à la base. Et effectivement, lorsqu'on intègre l'association, on devient membre, on paye sa cotisation annuelle. Et à ce titre-là, effectivement, on accède à divers services, comme effectivement l'intervision. Mais il y a également un système qui encourage en effet et la formation et la supervision individuelle qui, elle, peut être sur nos cas comme sur les cas des praticiens et des praticiennes.
Okay. Alors, qu'est-ce que vous pourriez dire aux collègues praticiens de santé mentale pour leur donner envie de rejoindre l'association ?
Moi ?
Oui.
Simplement, c'est de sentir cette fibre solidaire, parce que là, on est effectivement dans le monde du solidaire. S'il y a des personnes qui, pour eux, ont à peu près la même démarche que nous, c'est de se dire, oui, il y a une partie de mon travail, une grosse partie de mon travail qui est mon job, qu'ils font avec passion, et je réserve effectivement un tout petit peu de temps. On essaie de faire en sorte que ce ne soit pas plus qu'une à deux heures par semaine, parce qu'en même temps, les process sont faits d'une manière à ce que ce soit transparent pour la praticienne ou praticien. C'est-à-dire qu'ils prennent leur rendez-vous comme ils le font, comme disait Sophia, comme n'importe quel autre patient. Ils vont réaliser leur séance comme ils le font avec n'importe quel patient. Toutes les histoires du versement des 10 euros, ça leur échappe. C'est pas eux qui le gèrent. C'est fait en amont. Et il y a juste un compte-rendu à faire pour la traçabilité interne. Mais en fait, ça... Bordel Sophia, mais globalement, c'est prévu pour ne pas changer la vie des membres, en fait, de leur vie professionnelle, quoi.
Sophia, tu dirais que ça t'a apporté quelque chose de vraiment bénéfique dans ta pratique, que ça a aussi un peu alourdi ton temps de travail. Comment tu t'y retrouves, toi ?
Oui, en tout cas, c'est bien de voir les gens qui sont pas forcément, qui m'ont pas trouvé personnellement. C'était juste qu'ils étaient orientés vers moi parce qu'ils étaient attirés par l'hypnose ou MDR ou les pratiques ou autre chose. Et c'est un autre type de public que mes patientes. Alors effectivement, ça diversifie un peu les gens que je vois.
Est-ce que la question de la longueur de la thérapie est au centre de vos réflexions, en fait ? Parce que du coup, le patient, il peut rester combien de temps ? Parce qu'on sait que c'est une question importante, ça.
C'est au centre, en effet, ça l'a été. Parce qu'au départ, on a mis... Enfin, au départ, jusqu'à fin 2025, quand même. Donc, pendant un bon moment, on a figé à 10 séances. Parce qu'effectivement, le modèle d'une thérapie brève, c'est 10, voilà, sur 10 séances, si ce n'est pas réglé, c'est qu'il y a un autre problème. Le coaching est sur... Les contrats de coaching sont sur 10 séances maximum aussi. Donc, on a calqué un petit peu ce modèle-là. Et on s'est vite aperçu que ça pouvait ne pas suffire. Mmh. Hein, parce que, en fonction des problématiques, pour quelqu'un qui a une phobie, c'est sûr que 10 séances, ça devrait suffire. Mais malheureusement, des phobies, on n'en a pas beaucoup. C'est plutôt d'autres problématiques quand même plus profondes. Et de fait, on n'a plus de verrou à 10 séances depuis le 1er janvier. Par contre, on fait un point au bout de 10 séances et on renouvelle ou pas un nouveau contrat. Ça, c'est vrai. Mais parce qu'on travaille quand même contractuellement avec et entre l'association et le bénéficiaire. Tous les deux s'engagent.
Okay. J'ai compris que chaque thérapeute collègue qui intègre l'association, donc se paye sa cotisation à l'association. Concrètement, cet argent, il vous sert à quoi ?
Alors, il sert à financer les coûts que l'on a d'association, parce qu'on a quand même des coûts qui sont incompressibles, assurance, banque, domaine, site, maintenance. Enfin, et puis de temps en temps, il y a des manifestations, des événements à faire, donc ça peut coûter un petit peu. Au-delà de ça, il y a une partie des séances qui est justement qui va vers un fonds qui permet de financer les supervisions. Donc, et de la formation accessoirement, on va voir un petit peu comment on le fait. Mais donc sur 10 euros de paiement de séance, qui est quand même pas beaucoup, il n'y a pas beaucoup qui reste dans la caisse de l'asso. Le reste est bloqué en fait. Et effectivement, en fonction des supervisions, c'est comme ça qu'on encourage aussi les supervisions. C'est un donnant-donnant. C'est que on encourage le fait que les praticiens et praticiennes puissent effectivement continuer de se former et utilisent effectivement le support de l'association et des cas qu'on peut avoir pour continuer à améliorer la pratique. Voilà.
Est-ce que vous diriez que vous avez... Alors, on l'a entendu tout à l'heure, vous auriez particulièrement besoin d'un ou d'une psychiatre. Ça, on l'a bien entendu. Est-ce qu'il y a d'autres profils de thérapeutes ou d'autres outils que vous recherchez tout particulièrement ?
Les outils de psychothérapie classiques, les uns et les autres puissent... aujourd'hui, il y en a quelques-uns. La TCC, par exemple, aujourd'hui, n'est pas représentée dans notre collectif. Mais après, la thérapie cognitive comportementale, il y a aussi des thérapies comportementales simplement aussi qui se mettent en place. Effectivement, des spécialistes en TCC, typiquement, on ne l'a pas. Donc, clairement, après, si on a plusieurs personnes qui font l'hypnose ericksonienne, qui font l'EMDR... on prendra, ça sera nécessaire.
Sophia et Jean-Michel, merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous précise que on mettra toutes les informations, donc le lien vers le site internet des coachs solidaires, mais aussi le contact sur le site de la radio, c'est-à-dire divergence-fm.org. Et qu'est-ce que je peux vous souhaiter ? Je peux vous souhaiter de grossir beaucoup, et puis je vous dis bravo pour votre engagement et solidaire auprès de cette problématique.
Merci.
Merci beaucoup pour ton temps.
Ouais.